Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. L'analyse des relations internationales et plus généralement celle de l'évolution du monde abonde. On évoque ici un prétendu retour de tout un ensemble de vieilles pratiques, retour de la guerre froide ou chaude, retour de la nation, des frontières, du sacré ou du religieux, du libéralisme d'antan ou des menaces éternelles, crainte d'une troisième guerre mondiale. L'ouvrage dirigé par Bertrand Badie et Dominique Vidal intitulé « Le monde ne sera plus comme avant » aux éditions Les liens qui libèrent pose un autre regard sur notre présent qui nous éloigne de cette vision des retours de l'histoire. Bertrand Badie est notre invité, politiste, spécialiste des relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po et enseignant-chercheur associé aux séries. Bertrand Badie qui vient par ailleurs de publier « Vivre deux cultures, comment peut-on être franco-persan » aux éditions Odile Jacob. Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Il est évidemment beaucoup question de la guerre en Ukraine et des changements qu'elle induit. Avec le monde ne sera plus comme avant, vous cherchez à nous faire sortir du mythe de l'éternel recommencement de l'histoire et vous appelez à ce que nous changions notre logiciel ou notre regard. En quoi l'idée de l'éternel retour ne s'applique-t-elle pas dans ce que nous vivons aujourd'hui? Cette référence à l'éternel retour est-elle inhérente à notre difficulté finalement, ou à notre refus peut-être de voir ce que l'on voit? Pourquoi est-ce qu'il est difficile de voir? D'où vient cet engouement pour le retour, Bertrand Badie?
D'une sorte de contradiction, c'est-à-dire qu'il est très humain, j'allais dire, il est normal, lorsque l'on fait face à une situation, de trouver des repères dans ce que l'on connaît déjà, dans ce qu'on a expérimenté. Ainsi est fait l'être humain, il va du connu vers l'inconnu. Donc il y a toujours cette tentation de comparer la situation que l'on a face aux yeux à ce que l'on a connu et qui fait l'histoire. Mais là où il y a contradiction, c'est que, en même temps, nous savons que l'histoire, c'est toujours un aller simple. L'histoire n'offre pas de billet de retour, pour une raison très simple. Là aussi, les contextes ne cessent d'évoluer. Et quand vous mentionniez tout à l'heure retour de la guerre froide ou troisième guerre mondiale, il faut tout de suite avoir à l'esprit que le contexte d'aujourd'hui est celui de la guerre froide 1947 jusqu'à, alors il y a un désaccord entre les historiens, mais soit la fin des années 60, soit si on inclut les périodes de détente jusqu'à la chute de l'URSS, c'est un tout autre contexte que maintenant. Et quand on parle de Troisième Guerre mondiale, déjà les ressemblances entre la première et la seconde sont assez peu nombreuses, mais aujourd'hui, bien sûr, le contexte est tout différent. Avez-vous remarqué, notamment, que depuis 1945, on ne gagne plus véritablement les guerres. Les guerres deviennent des sortes d'affrontements sans bataille décisive, sans vainqueur proclamé ni vaincu officialisé, et généralement sans négociation. Alors tout ça fait que l'on est face à une situation inédite, et le gros problème, c'est que si les analystes comme moi se trompent, ça n'a pas grande importance. Mais les princes qui nous gouvernent restent les deux pieds dans l'ancien monde et ne cessent de filer cette rhétorique du retour d'eux. Et ce retour d'eux, c'est un mauvais diagnostic. Quand votre médecin fait un mauvais diagnostic, le traitement qu'il prescrit n'est pas adapté. Et à ce moment-là, la maladie s'aggrave. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulons dénoncer, Dominique Vidal et moi, dans cet ouvrage.
Alors, de la guerre en Ukraine, on va bien sûr parler. Avant ça, je souhaiterais qu'on approfondisse un tout petit peu. Vous dites que le conservatisme analytique, puisque le conservatisme, il est question, finalement, c'est une vraie stratégie politique qui protège les élites en place, quelles qu'elles soient.
Oui, parce que ce que l'on n'a pas bien vu, c'est que dans notre histoire européenne, avec la Renaissance et jusqu'à la chute du mur, en quelque sorte, il y avait une prédominance presque absolue du politique. Le monde était vraiment politique. Il était peut-être, mais j'introduirai déjà des nuances, géopolitique. C'est-à-dire que la rencontre de la géographie et de la politique a bien mené le monde pendant des siècles et des siècles. Louis XIV, Napoléon, Bismarck, Tout cela relève d'une géopolitique. Or, on voit aujourd'hui quantité de phénomènes se produire, et notamment un, moi, qui m'est très cher, parce que je le crois déterminant, qui est le fait que, pour quantité de raisons, le social court plus vite que le politique. On le voit à travers cette généralisation des implosions sociales, printemps arabe, la résistance sociale en Ukraine face à l'armée de conquête de M. Poutine. Tout ça fait que le social impose ses règles parce qu'il y a des facilités nouvelles de communication, d'échange, de visibilité, des échanges entre acteurs sociaux de plus en plus denses. Du coup, les politiques perdent un peu leurs privilèges. Les politiques, les princes, ne font plus l'ordre du monde. Ils subissent l'ordre du monde. Et vous savez comment ça a commencé, ça? Par la décolonisation. La décolonisation, ce sont des sociétés qui se sont révoltées, souvent sans leader politique, sans armée, sans organisation, et qui ont eu le dessus sur des armées structurées et des États réputés puissants. Eh bien, dans ce lent processus de dépossession du politique, évidemment, ceux qui ont le pouvoir, soit ne veulent pas le croire, c'est-à-dire ils sont sincères et de bonne foi, ils pensent que un congrès de Vienne mis à jour est encore possible, congrès de Vienne 1815, nouveau congrès de Vienne est encore possible, soit donc ils sont sincères, soit ils sont cyniques, c'est-à-dire ils se rendent compte de cette dépossession du politique et ils choisissent une stratégie de maintien coûte que coûte de ces privilèges politiques. Et d'ailleurs, regardez le creux de ces grandes négociations internationales, qu'il s'agisse des COP, des G7 ou G20, des réunions du Conseil de sécurité, c'est ce que l'on appelle de la rhétorique politique. Il n'y a plus de décision, il n'y a plus de capacité de peser sur. On parle beaucoup, et encore récemment donc au G20, d'une négociation sur le dossier ukrainien. Mais là aussi, le monde n'est plus comme avant, parce qu'on s'aperçoit que la négociation, c'est de l'histoire ancienne. Regardez les conflits récents, jamais ils n'ont abouti à de vraies négociations. Quelquefois des simulacres, style les accords de Doha sur l'Afghanistan, ou plus anciennement les accords de Paris sur le Vietnam, ou les accords d'Évian sur l'Algérie, c'était des simulacres. Ils n'ont en rien déterminé la fin d'un conflit. C'est le conflit lui-même qui s'est essoufflé et la partie la plus puissante qui a jeté l'éponge. Et donc aujourd'hui, c'est très difficile de négocier. Et pourquoi c'est difficile de négocier? D'une part, parce que les belligérants ne sont plus principalement des acteurs étatiques. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a plus sur le terrain de victoire décisive qui permet aux vainqueurs d'aller à la table de négociation avec des atouts et aux vaincus d'y aller résignés en considérant qu'en négociant, il permet de sauver les meubles. Et cette transformation énorme, personne n'en parle. Mais on va vous expliquer que, voilà, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, que c'est le retour de la guerre froide, que on voit le retour des nations et des frontières et qu'il faut miser sur un retour des négociations. Eh bien, si on mise et on parie sur tout ça, on ne verra rien, sauf une aggravation de la situation actuelle.
C'est peut-être inhérent à l'aspect hybride des conflits d'aujourd'hui. Ça mérite peut-être d'être approfondi. Alors, en ce qui concerne, puisque vous m'y conduisez, à la guerre en Ukraine, en quoi Bertrand Badie est-elle différente des précédentes? Vous parlez de la première guerre, de la mondialisation. Qu'est-ce que cela change finalement aux paramètres de la guerre?
Alors, beaucoup de choses. D'abord, la guerre telle qu'elle a été entreprise par Vladimir Poutine le 24 février dernier est typique de la guerre réactionnaire, au sens fort du terme réactionnaire, c'est-à-dire la tentative de réintroduire dans le contexte contemporain une vieille pratique qui était la guerre de conquête. Mais regardez l'histoire depuis 1945. Il n'y a pas eu de guerre de conquête. C'est fini, les guerres de conquête. Il n'y a pas une guerre de conquête qui ait véritablement abouti depuis 1945. Il y a eu des guerres de contre-conquête, notamment les guerres de décolonisation, qui, elles, ont abouti. Et donc, cette guerre militaire, cette guerre de conquête, cette guerre clausewitzienne menée par Vladimir Poutine, elle a mis quoi, 2 semaines, 3 semaines pour échouer complètement. Début mars, c'était plié. On savait que l'armée russe, cette seconde, deuxième armée du monde, n'entrerait jamais dans Kiev comme les armées du pacte de Varsovie avaient pu entrer dans Prague en août 1968. Donc ça, c'est déjà un premier repère. Et du coup, très vite, dès le mois de mars, cette guerre de conquête s'est transformée en guerre sociale. La guerre sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que la société ukrainienne a opposé à ses prétendus conquérants une résistance inédite qui a mis en déroute une armée extraordinairement puissante. Quand Poutine l'a compris, ce qui était difficile pour lui, parce que dans le cerveau d'un dictateur, qu'une société puisse mettre en déroute une armée, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Mais il a fini par le comprendre et il a transformé sa guerre de conquête en guerre de terrorisation sociale. Il s'agissait désormais pour lui de terroriser la société ukrainienne pour qu'elle relâche sa pression. Et ça a été Boutcha, ça a été Izioum, ça a été toutes les horreurs qui se sont succédées et qu'on découvre encore aujourd'hui alors que Kherson est libéré. Et puis, surtout, il y a un mécanisme qui s'est enclenché très très vite, qui a montré que ce conflit russo-ukrainien, pour essayer de trouver un terme neutre pour le définir, s'est mondialisé à une vitesse incroyable. Et ça aussi, c'est quelque chose d'absolument inédit. Nous avons 3 inédits. Une guerre militaire qui ne marche plus, une guerre sociale qui prend le dessus, qui rappelle à la rigueur les guerres de décolonisation, mais on ne peut pas aller plus loin dans l'histoire, et surtout cette guerre mondialisée qui, elle, est totalement inédite. C'est-à-dire que très vite, ce conflit bilatéral est devenu un conflit systémique, dans lequel tous les paramètres entraient, c'est-à-dire le paramètre alimentaire, le paramètre énergétique, le paramètre économique, bien entendu le paramètre social, le paramètre de la communication, quantité de paramètres qui faisaient que le stratège volontariste, le stratège proactif n'avait plus sa voix. C'est-à-dire quand le stratège, dans ce conflit, prend une initiative, il est immédiatement submergé par toute une série de conséquences en cascade qui l'étouffent. Alors c'est intéressant de voir le jeu qui s'est établi entre le prince du Kremlin et les princes occidentaux, qui est un jeu totalement inédit. Les occidentaux, de manière, me semble-t-il, très pertinente et très intelligente, ont répondu, non pas par des sanctions, j'aime pas ce terme, il a été tellement galvaudé justement dans l'histoire récente, mais par l'exclusion, sur le mode « on exclut la Russie de la scène mondiale ». C'est-à-dire exclusion économique, c'est-à-dire exclusion médiatique, c'est-à-dire exclusion sportive, exclusion sociale, tout ce que l'on peut imaginer. Ce qui, dans le monde actuel tel qu'il est, là aussi, différence de contexte par rapport à avant, est insupportable pour un État. Un État comme la Russie, exclu du monde, ne peut pas survivre. Et effectivement, ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en ce moment, l'économie russe, qui a essayé de s'adapter comme elle a pu, est prise dans une tenaille qui va lui être fatale. Ça, c'est certain. Mais, bien entendu, Poutine n'est pas resté sans réagir. Et son idée a été de dire, ils essayent de nous étrangler, effet de la guerre mondialisée, nous, on va utiliser les ressources mondialisées dont nous disposons pour les étrangler à notre tour. Et ça a été la fameuse séquence énergétique, séquence d'ailleurs qui n'est pas terminée, par laquelle Poutine a dit, on va asphyxier les Occidentaux en les privant des ressources énergétiques dont ils ont besoin. Parce que là, les Occidentaux étaient quelque peu imprudents en se laissant dépendre énergétiquement, au moins partiellement, de la Russie. Et il y a eu là aussi toute une série d'effets systémiques. Nous en sommes là, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile au jour d'aujourd'hui de savoir comment ce jeu d'exclusion réciproque va tourner, sur quoi il va déboucher. Et c'est cet aspect, cette force de dissuasion énorme et nouvelle que constitue dans les guerres mondialisées l'exclusion. Je parle de dissuasion parce que c'est une menace. Si tu continues comme ça, on t'exclut totalement du jeu. Est-ce que c'est la nouvelle arme de dissuasion, cette fois-ci du 21e siècle ou du 3e millénaire? Nous verrons. Nous en sommes là, mais vous comprenez que tout ceci n'a absolument rien à voir avec ce que nous avons connu avant, bien évidemment avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mais je dirais même avec la crise de Cuba, avec la crise de Berlin, avec tous les conflits qui se sont succédés depuis 1945. C'est un conflit totalement inédit, et si on continue à jouer à ce petit jeu du retour, vous rappelez la chanson de Ketty, « J'attendrai toujours ton retour », chantée ensuite par Dalida, eh bien, la plupart des analystes et des acteurs chantent cette chanson, ce qui est dérisoire par rapport à l'extraordinaire complexité, par rapport à l'inédit de la situation que nous vivons actuellement.
Alors, l'exclusion du monde de la Russie, pas tout le monde, Bertrand Badie. On voit tout de même un soutien, même s'il n'est pas clairement affiché. En tout cas, il n'a pas que des ennemis, Vladimir Poutine. Il s'est tourné du côté de la Chine. Alors, certainement, Vladimir Poutine, prisonnier du passé, c'est un peu ce que vous évoquez dans cette démarche qui a été la sienne d'envahir l'Ukraine en février dernier. Alors, déjà, échec de Vladimir Poutine. Je ne suis pas sûre qu'au bout de 3 semaines, on ait pu avoir les éléments qui nous permettaient de dire cela. En tout cas, la situation et la façon dont elle évolue peut-être nous confirment dans cette conclusion d'échec. Comment voyez-vous la guerre en Ukraine évoluer ? Est-ce qu'il est trop tôt pour essayer d'envisager les choses ?
Alors, d'abord, pourquoi je parle d'échec dès le printemps ? C'est parce que dès le printemps, on a su, on a compris que Kiev n'allait pas être prise et on a vu que les territoires conquis, je dirais plutôt rongés par l'armée russe, sont d'une superficie dérisoire par rapport à ce qu'escomptait Poutine et par rapport à ce qu'est l'Ukraine. Donc ça, c'est un échec militaire. Je veux dire, penser qu'au bout de quelques mois, en fait même de quelques semaines, Poutine ne contrôlait que 20% du territoire ukrainien et qu'encore dans ces 20%, il y avait une partie qui était déjà de facto occupée dans le Donbass, c'est un échec retentissant. Et puis derrière ce premier échec, il y a un deuxième échec dont on ne parle pas assez et qui est, à mon avis, déterminant, c'est que Poutine a réussi cette prouesse de montrer au monde entier que l'armée russe était une armée de carton. L'échec de l'offensive en est une preuve, l'échec de la mobilisation, dite mobilisation partielle, en est une deuxième preuve, et la troisième preuve, c'est ce caractère tout à fait anarchique de la chaîne de commandement, ce sentiment que l'état-major russe n'a pas la main sur les troupes employées, peu disciplinées, peu aguerri, en réalité, c'est une armée de carton-pâte.
Ça a été une surprise pour vous, Bertrand Badie ?
Une demi-surprise. Je me souviens m'être rendu assez souvent en RDA, enfin ce qui n'allait plus être la RDA au tout début des années 90. Et j'ai vu, puisque le mur était tombé et qu'on se déplaçait librement, les avions militaires du pacte de Varsovie, j'ai vu ces chars, tout ça sentait la rouille, et je me suis dit, ben, c'est quand même bizarre que les services secrets occidentaux ne s'en fussent point rendus compte. Et donc j'avais déjà cette idée qu'il y avait de la fiction dans la puissance soviétique de l'époque. Là, je vois la confirmation de l'intuition que j'avais lorsque l'URSS a chuté. Ça ne m'étonne pas outre mesure. Ceci étant, c'est quand même une surprise. C'est quand même une surprise parce que moi, je faisais partie de ceux, et de ceux, c'était des simples piétons jusqu'au service de renseignement américain qui croyaient véritablement que Kiev allait tomber. Rappelez-vous ces services de renseignement américains si bien informés qui conseillaient au président Zelensky de fuir Kiev et de s'installer à l'ouest, au fin fond occidental de l'Ukraine. Ça ne s'est pas produit. Donc, ces deux échecs, à la face du monde, c'est terrible pour lui. Et il y en aurait peut-être un troisième, mais ça, on ne sait pas grand-chose, qui est l'échec à l'intérieur de la Russie, c'est-à-dire son leadership qui se trouve lézardé. Alors, comment ça va évoluer ? Vous me posez la question. D'abord, mon métier n'est pas celui de prévisionniste, je me garderai bien. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de place pour la négociation.
On vous retrouve, Bertrand Badie, après le journal, autour de votre ouvrage co-dirigé avec Dominique Vidal, « Le monde ne sera plus comme avant ». entre franco-persans aux éditions Odile Jacob. Bertrand Badi, on revient sur la guerre en Ukraine. Après ça, on fera évoluer notre débat. Et là, cette guerre en Ukraine, relancer le thème de la dissuasion dans le débat public, donnant le sentiment finalement de son retour dans les affaires, dissuader le pouvoir des États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, s'agissant d'une sur cette question, et en particulier sur le rôle de l'OTAN, dont on voit qu'il est d'une certaine manière un peu ressuscité par ce conflit ukrainien, avec des perspectives d'élargissement. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Alors, si Dominique Vidal et moi, nous avons choisi le thème des faux retours, c'est parce que lorsque nous réfléchissions au thème du numéro de cette année, venait juste de commencer la guerre d'Ukraine, elle a l'impression que c'est un retour à pied de M. Haute Couverture, qui a cité des permanences et des changements. Et c'est vrai que cette dissuasion joue un rôle encore mystérieux. C'est-à-dire, on n'est pas à la fin de l'histoire et on ne sait pas comment va évoluer l'usage de la dissuasion dans ce conflit. Mais on s'aperçoit plus que jamais, 49, 45 c'est Hiroshima, 49 c'est la parité nucléaire entre les États-Unis et l'URSS, la dissuasion, c'est la dissuasion de monter aux extrêmes, c'est pas la dissuasion de faire. Il ne s'agissait pas d'une guerre mondiale, justement. C'est peut-être là que la dissuasion, jusqu'à maintenant, espérons que ça demeure, fonctionne véritablement. C'est-à-dire, si M. Poutine s'est empressé de parler d'opérations militaires spéciales, euphémisme un peu étrange et quelque peu ridicule, c'était justement aussi sa façon de montrer qu'il était dissuadé. C'est-à-dire qu'il comprenait, même lui comprenait, que dire qu'on fait la guerre à l'Ukraine était quelque chose qui risquait de faire franchir la ligne rouge. De même, lorsque la coalition a été mise en place de ces 41 nations, entre parenthèses, dont l'Ukraine, qui avait envahi l'Irak en 2003, Bush faisait tout son possible pour expliquer au monde que c'était « war on terrorism », c'était la guerre au terrorisme, et que ça n'avait absolument rien à voir avec une opération militaire, guerrière mondiale, même si de facto c'en était une. Donc ça, c'est un élément intéressant. Alors, ce qui est intéressant, et vous l'évoquez dans votre question, c'est la deuxième étape de la chose, c'est-à-dire cette résurrection de l'OTAN. Vous avez raison, mais on vient de s'en expliquer, l'OTAN n'a pas empêché Poutine de franchir la frontière russo-ukrainienne. En même temps, il faut bien admettre que Poutine fait très attention à ne pas déborder sur les États membres de l'OTAN. Et du coup, deux pays neutres se sont précipités pour entrer dans la maison, la Suède et la Finlande. Mais c'est là que le malentendu commence. Parce que on s'aperçoit quand même de la désuétude de l'OTAN, de cet extraordinaire décalage qu'il y a entre cette organisation née d'une alliance atlantique qui date de 1949, avant ma naissance, c'est dire à quel point elle est vieille et à quel point elle relève d'un contexte qui n'a rien à voir avec le contexte présent. Lorsque cette guerre est devenue la guerre mondialisée que nous décrivions ensemble il y a un instant, eh bien, l'OTAN a été complètement hors-jeu. L'OTAN, face à ces grandes tensions systémiques, non seulement n'est pas opératoire, mais est contre-productive. C'est-à-dire qu'il y a un point crucial sur lequel on ne s'interroge pas suffisamment, c'est le comportement des tiers parties. C'est-à-dire ceux, par exemple, qui se sont abstenus dans les votes aux Nations Unies ou qui ont refusé de participer au vote. Vous avez plus de la moitié du monde.
Ils sont nombreux.
Vous avez, en gros, avec le dernier vote, 49 États, ce qui n'est pas rien, mais en termes de population, c'est plus de la moitié du monde. Et il y a un dénominateur commun entre tous ces pays. C'est la peur que représente l'initiative poutinienne, mais la peur aussi incarnée par cette organisation militaire fermée que constitue l'OTAN, ce sentiment d'un entre-soi occidental qu'il vient ainsi alimenter, et cette espèce de triste confirmation qui peut être apportée grâce à la propagande poutinienne, à l'idée développée par le maître du Kremlin, qu'il est le principal résistant à cette volonté pérenne d'une hégémonie occidentale. Alors, Il ne m'appartient pas ici de dire s'il y a une volonté d'hégémonie occidentale sur le monde ou pas. C'est un tout autre débat très compliqué. N'empêche que ce club militaire occidental fermé donne, et je reviens d'Afrique, et ça je l'ai entendu, le sentiment qu'il y a une bastille politico-militaire ou diplomatico-militaire occidentale qui fait peur. Et donc, là où la condamnation de l'acte poutinien était archi-évident, une violation ultra-évidente du droit international, eh bien, on n'a pas pu créer les conditions d'unanimité parce que ce positionnement d'une OTAN dont la fonction et l'utilité militaire restent à démontrer, en tous les cas, vient conforter cette propagande absurde de Poutine qui dit « moi j'ai fait ça pour protéger le monde contre une hégémonie occidentale ». En 1991, le père Bush, George H. Bush, avait décidé de maintenir l'OTAN alors que le pacte de Varsovie venait d'être dissous. Et à ce moment-là, le président de la République française, qui était François Mitterrand, a eu cette réaction très pertinente de dire « mais monsieur le président, vous êtes en train de refaire la Sainte Alliance ». Et effectivement, Mitterrand avait eu l'intuition que cette organisation militaire qui n'avait plus de vis-à-vis, donc qui n'avait pas cette fonction de protection qu'elle pouvait avoir du temps de la guerre froide, allait reconstituer une sorte d'oligarchie occidentale persuadée de la supériorité de ses valeurs. Et ça, c'est une très mauvaise image donnée au monde. Et les images données au monde en temps de mondialisation, c'est extrêmement négatif. C'est la raison pour laquelle cette absence d'imagination des Occidentaux entre 1991 et aujourd'hui, essayer de repenser le système international. Rappelez-vous, dans les années 90, au début des années 90, où on parlait de New World Order, de ce nouveau monde à créer, ça n'a pas été fait, rien n'a été fait. On nous ressort l'OTAN de la période de Staline. Poutine n'est pas plus sympathique que Staline. Mais ce n'est pas Staline, c'est notre genre de perversité.
On en revient à ce que vous évoquiez, Bertrand Badi, dans la première partie de l'émission, c'est cette stratégie campiste sur laquelle les Occidentaux sont demeurés installés, là où les autres acteurs du jeu international déploient désormais une stratégie beaucoup plus complexe, hein, qui rétroagit d'une certaine manière sur le modèle occidental et transforme, voire paralyse sa diplomatie. On voit une diplomatie attrape-tout de la Chine, de la Russie, de l'Inde, qui font partie donc des émergents les plus dotés, certains ayant déjà émergé. Votre regard là-dessus, cette...
Alors, vous avez raison, je crois que vous mettez le doigt sur ce qu'il y a de plus nouveau sur la scène diplomatique, c'est-à-dire au jeu d'alliances qui évoquent notre vieille histoire européenne. Succède ce que vous appelez une diplomatie attrape-tout. On pourrait aussi, c'est presque synonyme, parler de diplomatie fluide ou de diplomatie de connivence, que j'avais fait précédemment dans un ouvrage, montre que les nouveaux acteurs du monde, notamment les émergents, préfèrent la souplesse des adaptations aux situations que l'embrigadement des alliances. L'une des erreurs majeures, et à mon avis, elle nous a été très coûteuse, ça a été dès février de dire que la Chine est l'alliée de la Russie. D'abord, en chinois, il n'y a pas de mot véritablement pour alliance. Et regardez l'histoire diplomatique de la Chine multimillénaire, elle n'a jamais été alliée à personne. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va commencer. Et on n'a pas vu deux choses. La première, l'extraordinaire capacité de la Chine de s'adapter à la mondialisation et d'avoir une diplomatie mondialisée. Et cette diplomatie mondialisée fait sa force aujourd'hui. Mais en même temps, c'est notre plus solide assurance. C'est-à-dire, la Chine sait très bien, les dirigeants chinois, aussi peu sympathiques puissent-ils être, savent très bien qu'une crise trop forte de l'économie mondiale leur serait fatale. Donc, ils ont compris cette nature systémique du monde. Ça, c'est un élément très, très important. L'autre élément, ils ont compris qu'au lieu de s'allier pour la vie, mieux fallait faire des alliances au cas par cas. En gros, si vous acceptez cette métaphore un peu osée, sur la scène diplomatique aujourd'hui, c'est l'union libre qui prévaut sur le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel de bourgeoisie de sous-préfecture, c'est l'OTAN. L'union libre peut-être un peu libertine, il y a un certain libertinage diplomatique dans cette affaire. C'est l'Arabie Saoudite qui un jour s'entend avec Poutine, c'est Israël qui sait aussi manipuler des connivences avec le maître du Kremlin pour pouvoir librement bombarder les bases du Hezbollah en Syrie, c'est l'Iran qui donne des drones à Poutine, c'est ces liens très curieux entre Poutine et Erdogan. Et c'est, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette phrase qui n'a pas été suffisamment analysée du ministre indien des Affaires étrangères, hein, l'Inde c'est 1,5 milliard d'individus, monsieur Subramanian Jaishankar, qui a dit « nous allons passer d'une diplomatie du non-alignement au multi-alignement ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Multi-alignement, ça veut dire quoi? Au cas par cas, l'Inde verra ce qu'elle peut faire. Un jour avec l'un, un jour avec l'autre, ce que j'appelle l'union libre. Mais ça, c'est les nouvelles relations internationales. Alors, dans les chancelleries occidentales, on n'a pas du tout vu passer la chose. Et ça, ça nous met, notamment vis-à-vis du Sud, de ce Sud qui sera nécessairement, tôt ou tard, l'arbitre, non seulement de la situation ukrainienne, mais de toutes les situations diplomatiques. Eh bien, on voit bien comment cet arbitrage nous met en position d'infériorité, parce que Poutine a su jouer de ça, en passant pas mal d'accords avec les émergents, avec les BRICS, avec l'Organisation de coopération de Shanghai. Le chapitre de Jean-François Di Meglio le montre fort bien. Et en revanche, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, nous sommes toujours dans notre entre-soi. Vous savez, c'est un peu comme cette vieille bourgeoisie qui ne voit que les gens de bonne famille. Voilà.
Union libre ou opportunisme. Quelques mots, Bertrand Badi, sur le populisme. Est-ce que l'on peut dire que l'instabilité géopolitique peut avoir de l'influence sur la consolidation ou l'émergence des mouvements autoritaires? Est-ce qu'on va vers une exacerbation des populismes contemporains?
Alors ça, c'est ce qu'analyse dans l'ouvrage Jean-Yves Camus, et c'est extrêmement intéressant, parce que le national-populisme, c'est en même temps la marque de notre époque. Et regardez ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe en Suède, ce qui se passe tous les jours en France, et on pourrait continuer l'énumération.
Fragilisation aux États-Unis, à la surprise des élections de mi-mandat.
Oui, enfin, moi je suis surpris qu'on parle de surprise, il n'y a pas tellement de surprise. Les Républicains ont encore grignoté, et Trump reste extrêmement populaire. Quand des gens comme Bolsonaro et Trump réussissent après tant de scandales, tant de bêtises proclamées, réussissent à faire jeu égal avec un Lula ou un Biden, c'est quand même très inquiétant. La bouteille n'est pas à moitié vide, elle est dramatiquement vide. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que ce national-populisme, c'est une caractéristique, je dirais, c'est la pathologie essentielle de notre monde actuel. Pathologie qui tient pour beaucoup à la conjonction d'une peur face à la mondialisation. Et je dirais que le conflit ukrainien attise cette peur de bien des points de vue, surtout en Europe, parce que les conflits se rapprochent. Tant que les conflits ont lieu en Syrie ou au Yémen, ça ne nous concerne pas, on peut continuer à faire notre tiercé. Là, maintenant, effectivement, Dieu sait ce qui peut se produire, etc. Donc c'est d'une part la peur, et d'autre part cette marchandisation cynique de la peur par quelques entrepreneurs politiques qui vous vendent plein de peurs. Peur de la mondialisation, peur de l'immigration, peur des étrangers, ce que dans mon autre livre j'ai essayé de montrer. Et la conjonction de ces peurs fait que effectivement, on voit ressurgir un populisme qui semble une figure familière. Il y a eu du populisme dans les années 30, il y a eu du populisme à la fin du 19e siècle. Donc on se dit, voyez, éternel retour. Attention, ce n'est pas, je dirais, pour le meilleur et pour le pire, le même populisme. Pour le meilleur, parce que on n'en est pas à la renaissance du nazisme, n'en déplaise à M. Poutine qui plaidait ce genre de thèse, donc il faut faire très attention. Le populisme des années 30 et le populisme d'aujourd'hui n'ont rien à voir, ne serait-ce que parce que nous sommes dans un monde mondialisé et où les échanges transnationaux sont quand même considérablement plus denses qu'autrefois. Mais pour le pire, parce que l'histoire a montré que nous avons eu, à la fin du 19e siècle et même pendant les années 30, certains vaccins qui permettaient de guérir de tout cela, ces vaccins ne sont plus Mitterrand aujourd'hui. Et donc, il va falloir trouver le moyen de sortir de ce long tunnel dans lequel nous met cette extrême droite nationaliste, xénophobe, raciste. Et effectivement, ce n'est pas le traitement d'hier qui marchera. Vous savez, il y a un seul traitement, c'est la bonne mondialisation.
Ce serait l'objet d'une émission pour savoir ce qu'est une bonne mondialisation. J'en reviens pour l'instant, Bertrand Badie, à ce que vous évoquiez dans la première partie de l'émission. L'agenda mondial est aujourd'hui, dites-vous, davantage dominé par la pression venant des sociétés et des enjeux sociaux globaux. Vous parlez d'un nouveau monde plus social que politique. Je reprends le titre d'un chapitre pour vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a encore des solutions nationales aux problèmes du monde, Bertrand Badie ?
Eh bien, voilà encore un élément majeur du contemporain. Il n'y a plus de solution nationale aux problèmes globaux. Pourquoi ? Parce que les enjeux d'aujourd'hui sont des enjeux systémiques, c'est-à-dire qui relèvent du système tout entier. Regardez avec quelle vitesse le système global s'est emparé du particularisme russo-ukrainien. C'est-à-dire comment, quelques jours, j'allais dire même quelques heures après le 24 février, en Zambie, au Sénégal, en Corée du Sud, on s'est communément inquiété de cette guerre qui, tout d'un coup, remettait en question tout le jeu du système, le jeu alimentaire, le jeu énergétique, le jeu économique, etc. Mais nous avons eu, pendant 3 ans, de quoi nous convaincre que l'on ne luttait pas contre le Covid simplement en additionnant 193 politiques nationales. C'est la raison pour laquelle je reprends la formule de Todorov, le nationalisme n'a rien à vendre. Il faut maintenant progresser dans la gouvernance globale du monde. On ne l'a pas compris en matière sanitaire. Je vois à travers la COP qui s'amuse la même chose à propos du climat. Il faut passer à des solutions globales.
Bertrand Badie, merci pour cet entretien passionnant. Je rappelle que vous étiez notre invité à autour de la sortie de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Dominique Vidal et qui s'intitule « Le monde ne sera plus comme avant » aux éditions Les liens qui libèrent. Vous êtes, Bertrand Badie, je le rappelle, politiste et spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po. Et je signale également votre dernier ouvrage « Vivre deux cultures, comment peut-on être franco-persan » aux éditions Odile Jacob. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi prochain.
Vous écoutez RFI, il est 20h30 ici à Paris, 19h30 à Kinshasa et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet.
La Coupe du monde de football, c'est parti. Le Qatar, pays hôte, s'est incliné 2-0 face à l'Équateur. Et demain, le Sénégal affronte les Pays-Bas sans Sadio Mané. Ce sera à 17h, heure française, un match retransmis en direct et en intégralité sur les antennes africaines d'RFI. Le bilan est contrasté à l'issue de la COP27, mais une avancée quand même avec la création d'un fonds pour les pays pauvres victimes du dérèglement climatique. La fin du sommet de la francophonie à Djerba, sommet marqué par des tensions entre la République démocratique et le Rwanda. Et puis les élections générales en Guinée équatoriale, Teodoro Biangema, 80 ans, doyen des présidents, brigue un 6e mandat. Des feux d'artifice, des danseurs, des dromadaires et des jeux de lumière au Qatar, dans la ville d'Alcor, située à 50 km de Doha, dans le stade d'Al Bayt, un stade climatisé à 20 degrés en plein désert pour lancer la 22e Coupe du monde de football. En match d'ouverture, le pays hôte a été battu par l'Équateur 2-0. Et le mondial, vous le savez sans doute si vous nous écoutez au Sénégal, c'est donc demain, lundi, pour les Lions de la Teranga. À 16h, temps universel, les champions d'Afrique affronteront les Pays-Bas à Doha et à 24 heures de leur entrée dans la compétition. Les Lions ont vécu un moment particulier ce dimanche, la remise du drapeau national par le président de la République Macky Sall et sous les yeux d'Olivier Pron.
Pile à l'heure, Macky Sall, pour ce moment aussi symbolique qu'important pour les Sénégalais et leurs Lions, tous présents bien sûr, en randonnion, sages, fiers.